إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous en sommes aujourd'hui au chapitre sur la prière du vendredi, extrait de l'ouvrage Manhaj al-Salikin de l'imam al-Sayyidi rahimahullah ta'ala. Comme vous le savez, la prière du vendredi fait partie des rites les plus importants de la religion de l'islam. Et le jour du vendredi lui-même a un grand mérite, comme cela est confirmé dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur jour sur lequel le soleil s'est levé est le jour du vendredi. En celui-ci, Allah a créé Adam. En celui-ci, il l'a fait entrer au paradis. En celui-ci, il en a fait sortir. Et l'heure ne viendra pas si ce n'est un jour du vendredi. Le cheikh rahimahullah ta'ala a commencé ici par nous clarifier le jugement de la prière du vendredi et il a dit: كُلُّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْجَمَاعَ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَ إِذَا كَانَ مُسْتَوْطِنًا بِبِنَا. Toute personne pour qui la prière en groupe est obligatoire, la prière du vendredi lui est aussi obligatoire s'il est installé dans une construction, c'est-à-dire dans une demeure fixe. Les gens de science sont donc unanimes concernant l'obligation de la prière du vendredi. Ceci est prouvé par les textes du Coran et de la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, au verset 9 de Surat al-Jumu'ah, « Ya ayyuha alladhina amanu, idha nudiya lissalati min yawmi al-Jumu'ah, fas'u ila dhikrillah, wa dharu al-bay'a. » Ô vous qui croyez, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez au rappel d'Allah et délaissez le commerce. On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'accourir à la prière lorsqu'on y appelle, c'est-à-dire la prière du vendredi. Et cet ordre implique nécessairement l'obligation de cette prière. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala interdit dans ce verset le commerce après l'appel à la prière du vendredi. Et ce, afin que ceci ne nous détourne pas de l'accomplissement de cette obligation immense qui est la prière du vendredi. Parmi les preuves de la sunna sur l'obligation de la prière du vendredi, il y a le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira et Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui rapportent tous deux avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que certains cessent de délaisser la prière du vendredi, ou bien Allah scellera leur cœur et ils seront du nombre des insouciants. On voit donc qu'il y a en cela une menace sévère contre ceux qui délaissent la prière du vendredi. S'ils ne cessent pas de délaisser cette prière, Allah scellera leur cœur. Ils seront du nombre des insouciants, et ce en guise de sanction en raison de ce délaissement. Il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith: celui qui délaisse la prière du vendredi à trois reprises, c'est-à-dire trois semaines de suite, par négligence, Allah scellera son cœur. On voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé un nombre de délaissements. Et certaines personnes comprennent mal ce hadith. Ils comprennent de celui-ci qu'il n'y a pas de mal à délaisser la prière du vendredi, par exemple, une semaine sur deux, ou une semaine sur trois, étant donné que la sanction mentionnée ne concerne que celui qui délaisse trois vendredis de suite. Mais ce n'est pas cela le sens du hadith. Le hadith, il t'encourage à ne jamais délaisser cette prière, au risque d'encourir cette sanction. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ce nombre car il se peut que le premier vendredi, la personne, elle le manque par erreur, par insouciance. Le deuxième vendredi, il en est de même. Mais le fait qu'il délaisse trois vendredis de suite, cela montre qu'il néglige et méprise cette obligation. Et c'est pour cela que celui qui délaisse trois vendredis de suite, alors Allah subhanahu wa ta'ala scelle son cœur et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Dans un autre hadith, rapporté par Hafsa, radiyallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: se rendre à la prière du vendredi est une obligation pour tout homme pubère. Et ce hadith est rapporté par Abu Dawud al-Nasai, il a été authentifié par Al-Albani, rahimahumullahu ta'ala. Donc, ce hadith nous fait passer à la question suivante qui est: pour qui la prière du vendredi est-elle obligatoire? Est-ce qu'elle est obligatoire pour tout musulman ou seulement pour certains d'entre eux? La réponse, elle se trouve dans la parole du Cheikh rahimahullah ta'ala qui a dit: tous ceux pour qui la prière en commun est obligatoire, la prière du vendredi est obligatoire. On a vu dans un cours précédent pour qui la prière en commun est obligatoire. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a dit pour les hommes. On a expliqué cela signifie pour le musulman, pubère et doué de raison. Donc la prière du vendredi est une obligation pour tout homme musulman pubère et doué de raison. On comprend donc que ce n'est pas une obligation pour les enfants non pubères, et également ce n'est pas une obligation pour les femmes. Toutefois, il est permis à la femme de se rendre à la prière du vendredi, comme on l'a mentionné pour la prière en commun, à condition que son mari lui autorise et qu'elle sorte entièrement voilée, sans s'exhiber, ni se parfumer, et qu'il n'y a pas dans sa sortie une source de tentation pour elle ou pour les autres. Si telle est la situation, alors il lui est permis de se rendre à la prière du vendredi, tout en sachant que la base reste toujours la même, et c'est que sa demeure est meilleure pour elle, comme il est venu dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans sont unanimes concernant le fait que la prière de la femme dans son domicile est meilleure pour elle que la prière à la mosquée. Et le shir, rahimahullah ta'ala, il a précisé une chose ici. La prière est obligatoire pour ceux pour qui la prière en commun est obligatoire, s'il est établi dans un endroit fixe, dans une habitation, dans une construction. Et ce car, la prière du vendredi, elle n'est pas obligatoire pour ceux qui ne sont pas établis dans un endroit fixe, comme par exemple les nomades. Donc cela, la prière du vendredi, elle n'est pas obligatoire pour eux. Il en est de même concernant le voyageur. Le voyageur, il n'est pas obligé pour lui, s'il est en voyage le jour du vendredi, de se rendre à la prière. Toutefois, il est conseillé pour celui qui en a les capacités de ne pas choisir spécifiquement le jour du vendredi pour voyager. Ceux-là sont donc ceux pour qui la prière du vendredi est obligatoire. Et comme pour la prière en commun, cela concerne celui qui est en bonne santé. Mais concernant celui qui est malade, alors, de la même manière que pour la prière en commun, s'il ne peut pas s'y rendre, il est excusé. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné les conditions de la prière du vendredi. Il dit: وَمِنْ شَرْطِهَا فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا. Et parmi ces conditions, son accomplissement dans son temps. C'est-à-dire que comme toute autre prière, la prière du vendredi a un temps déterminé. Et il est obligatoire de l'accomplir durant ce temps. Et si elle n'est pas accomplie durant ce temps, alors elle ne sera pas valide, et ce à l'unanimité des gens de science. Reste à savoir quel est son temps. Le temps de la prière du vendredi, c'est le même temps que la prière du dhuhr. Et les gens de science ont divergé concernant son accomplissement avant l'heure du dhuhr, c'est-à-dire dans la matinée. Certains ont dit que, comme la prière du Eid, elle pouvait être accomplie après le shuruq, après le temps d'interdiction de prier, et que son temps durait jusqu'à la fin de la prière du dhuhr, c'est-à-dire l'entrée du temps de l'asr. Et c'est pour cela que vous trouvez certaines mosquées qui, par exemple, vont accomplir la prière toute l'année à 13h, bien que, en été, le dhuhr soit autour de 14h. Cela est en se basant sur l'avis des gens de science et ont stipulé que la prière du Jumu'ah pouvait être accomplie durant la matinée. Toutefois, le plus prudent est de l'accomplir à l'heure du dhuhr, car ceci est l'avis de la majorité des gens de science. Et si l'adhan et la khutba sont quelque peu avancés, c'est-à-dire que l'appel à la prière est fait avant l'entrée du temps du dhuhr, et que la khutba commence avant l'entrée du temps du dhuhr, mais que la prière a lieu à l'heure du dhuhr, alors il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala, et ceci est le plus prudent, sortant ainsi de la divergence. La deuxième condition que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnée, c'est « wa an takuna bi qaryah » et qu'elle ait lieu dans une ville. Et ce car, comme on l'a dit, ceux qui vivent dans des tentes, les nomades, qui n'ont pas d'endroit fixe, en hiver ils sont dans un endroit, en été ils sont dans un autre endroit, ils n'ont pas d'habitation construite. Alors ceux-là, ils n'ont pas à accomplir la prière du vendredi, et s'ils la font, dans le lieu où ils sont établis temporairement, alors la prière n'est pas valide. En effet, il y avait de nombreuses tribus arabes autour de Médine et ils ne faisaient pas la prière du Jumu'ah dans les lieux où ils étaient établis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas ordonné. Ensuite, il mentionne une troisième condition et dit wa an yataqaddamaha khutbatan, et qu'elle soit précédée de deux sermons. C'est-à-dire qu'il fait partie des conditions de validité de la prière du vendredi qu'elle soit précédée de deux sermons. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sermon, alors la prière du vendredi n'est pas valide. S'il n'y a qu'un seul sermon, également, la prière du vendredi n'est pas valide. Il est impératif qu'il y en ait deux. Et si les deux sermons sont accomplis après la prière, alors également, la prière du vendredi n'est pas valide. La preuve de l'obligation des deux sermons avant la prière, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait constamment cela. Il n'a pas accompli la prière du vendredi d'une autre manière. De plus, dans le verset que l'on a lu tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants, lorsqu'on appelle à la prière du jour du vendredi, d'accourir au rappel d'Allah. Il est bien connu que lorsque le muezzin fait l'appel à la prière, après cet appel commence le sermon. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne donc d'accourir au rappel d'Allah pour assister à ce sermon. Et les gens de science ont dit que ceci nous prouve que s'il est obligatoire d'accourir pour y assister, c'est que le sermon lui-même est une obligation. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous décrit comment se déroulent les sermons. Il dit, rahimahullah, « Wa an Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, qal, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم. جابر رضي الله تعالى عنه rapporte que lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم prononçait le sermon, prononçait la khutba, ses yeux rougissaient, sa voix s'élevait, sa colère grandissait, comme s'il était l'avertisseur d'une armée qui prévenait les gens qu'ils se feront attaquer le matin ou le soir. Donc ceci nous indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait son sermon avec énergie, avec ardeur, au point que ses yeux rougissent et il élevait sa voix comme l'avertisseur d'une armée qui prévient d'un danger. Et lorsqu'il dit sa colère grandissait, c'est-à-dire qu'il faisait preuve de sévérité dans son discours, comme s'il était en colère. Et ce, afin d'effrayer les gens et de leur faire peur en leur rappelant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite. Il est donc légiféré pour celui qui prononce le serment d'agir de cette manière. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَيَقُولْ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. Et il disait, ceci dit, le meilleur des discours est le livre d'Allah, et la meilleure des voix est la voix de Muhammad صلى الله عليه وسلم, et les pires des choses sont celles instaurées, c'est-à-dire instaurées en religion, les nouvelles choses instaurées en religion. Et toute innovation est égarement. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et il apparaît que ceci était prononcé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans chacun de ses sermons. Il disait ces paroles. Chaque vendredi, il répétait cette phrase, et ceci nous montre l'importance de se rappeler que le meilleur des discours, la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Qur'an. Et la meilleure des voix, la meilleure des voies à suivre, c'est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, certaines personnes cherchent des paroles pour adoucir leur cœur. Ils cherchent à écouter un rappel afin de faire augmenter leur foi. Alors, tu dois savoir que la meilleure des paroles à écouter, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cela qui va faire vivre ton cœur, faire monter ta foi, adoucir ton cœur et ainsi de suite. En plus, si tu l'écoutes avec méditation sur ses sens et ses versets. Et la meilleure des voies à suivre, si tu souhaites le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, c'est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'autre voie pour obtenir le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Tu dois avoir la certitude de cela. Et quiconque emprunte une autre voie que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il s'est certes égaré. Et il rappelait également sallallahu alayhi wa sallam le danger des innovations, les choses nouvelles en religion, les choses qui sont accomplies pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas légiférées. Toute innovation est égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répète ça chaque vendredi dans ses sermons. Et après, certaines personnes vont dire oui, mais il y a de bonnes innovations. Comment cela, il y a de bonnes innovations? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque vendredi, il répète toute innovation est égarement. Puis quelqu'un vient dire il y a de bonnes innovations. Ceci s'oppose clairement à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment peut-on faire des exceptions dans sa parole alors qu'il a généralisé le jugement? Et bien sûr, lorsqu'on parle d'innovation, on parle d'innovation en religion, le fait d'innover, des règles religieuses, d'innover, des actes d'adoration, que ce soit des paroles, des actes, des croyances ou autres. Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَفِي لَفْذٍ لَهُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَى سَوْتُهُ. » Et dans une autre narration du hadith, rapporté aussi par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, le sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du vendredi, commençait par les louanges d'Allah, ses éloges, puis il disait cela en élevant la voix, c'est-à-dire ce que l'on vient de mentionner. On voit donc qu'il commençait, sallallahu alayhi wa sallam, ses sermons par les louanges d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il ne commençait pas ses sermons par autre que cela. Wa fi riwayatin lah, et dans une autre narration, toujours rapportée par l'imam muslim, Man yahdillah fala mudillalah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi, celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Donc ceci est rapporté dans ce qu'on appelle khutbatul hajar, qui est prononcé par de nombreux imams le vendredi ou lors des cours et des conférences et ainsi de suite. Ce sermon d'introduction qui était prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, rahimahullah, « Wa qal, inna tula salati ar-rajul, wa qisari khutbatihi, ma innatun min fiqhi, rawahu muslim. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La longueur de la prière de l'homme et la courte durée de son sermon sont un signe de sa science ou de sa compréhension. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. On voit donc que la sunnah est d'écourter le sermon et d'allonger la prière. Et allonger la prière, on va le voir par la suite à travers les paroles de l'auteur, de quelle manière cela a lieu avec les sourates qui y sont récitées. Et concernant le sermon, qu'est-ce qui est visé par le fait de l'écourter? Est-ce que cela signifie que le sermon ne doit durer que quelques minutes? Ou combien de temps doit-il durer? En réalité, cette question, elle est relative, car ici, il n'y a pas de temps qui nous est mentionné. Mais selon l'usage, on sait que si un sermon durait une heure ou plus d'une heure, il n'y a pas de doute que les gens se lasseraient de ce sermon et ne seraient pas attentifs. Tandis que s'il dure une vingtaine de minutes ou une demi-heure, alors les gens peuvent rester attentifs durant ce moment. Donc, l'objectif en cela est de maintenir les gens attentifs et qu'ils ne soient pas pris de lassitude en raison de la durée du sermon. Mais cela ne signifie pas qu'il ne doit durer que quelques minutes. D'autant plus à notre époque où le sermon du vendredi est pour nombre de personnes le seul rappel qu'ils vont écouter durant la semaine. Car beaucoup de gens sont plongés dans les affaires mondaines, le travail, le commerce et ainsi de suite, au point d'être insouciants tout au long de la semaine, et ils n'ont comme rappel que ce sermon du vendredi qu'ils vont écouter. Et donc pas de doute qu'il est nécessaire pour l'imam de profiter de cette occasion immense et de ce grand rassemblement des musulmans pour les sermonner et leur rappeler les choses importantes et nécessaires pour eux dans leurs pratiques religieuses. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ » Il est recommandé qu'il prononce le sermon en se mettant sur un minbar, sur une chaire, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le faisait. Et la sagesse en cela est que l'imam est ainsi surélevé et il fait face aux gens. Cela leur permet de pouvoir le regarder et lui-même, il peut les regarder pour s'adresser à eux. Ainsi, il est plus à même d'attirer leur attention. Et si l'imam, pour une raison ou pour une autre, il ne peut pas monter sur le minbar, par exemple, alors il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. فَإِذَا صَعِدَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فسلم عليهم. Une fois monté sur le minbar, il fait face aux gens, c'est-à-dire qu'il se met face à eux, dos, à la qibla, et il leur adresse le salam. Il dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Et ce comme cela est rapporté par l'imam Ibn Majah, rahimahullahu ta'ala, d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam saluait lorsqu'il montait sur le minbar ». Et ce hadith a été jugé authentique par l'imam Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Donc lorsque l'imam entre dans la mosquée, il monte sur le minbar, se tourne en direction des gens, et après cela, il leur passe le salam. « Thumma yajlis wa yu'addinu al-mu'addin ». Après cela, il s'assoit, c'est-à-dire qu'il se met debout pour leur passer le salam, puis il s'assoit sur le minbar. Et après cela, le mu'addin fait l'appel à la prière. Comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après Sa'ib ibn Yazid, radiyallahu ta'ala anhu, l'appel, le jour du vendredi, commençait lorsque l'imam s'asseyait sur le minbar au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr et de Omar radiyallahu ta'ala anhuma. Donc une fois l'imam entré, monté sur le minbar, qu'il a salué les gens puis s'est assis, le muaddin fait l'appel à la prière. Après l'appel à la prière, le cheikh nous dit thumma yaqoum fa yakhtub. Puis il se lève et prononce le sermon, le premier sermon. Thumma yajlis. Thumma yakhtub al-khutbah ath-thaniya. Puis il s'assoit, après le premier sermon, il s'assoit un court instant. Puis il prononce le deuxième sermon. Comme cela est prouvé par le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. D'après Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, prononçait le sermon du vendredi debout. Puis il s'asseyait, puis il se levait, puis il dit, radiyallahu ta'ala anhu, comme vous le faites aujourd'hui, c'est-à-dire à son époque, et comme on le fait jusqu'à aujourd'hui, à notre époque. » Donc l'imam, il va donc prononcer deux sermons debout et s'asseoir un court instant entre ces deux sermons. « Thumma tuqamu s-salah » Après cela, on fait l'iqama pour la prière. C'est-à-dire que l'imam descend du minbar, on fait l'iqama, puis il prie deux unités comme l'auteur, rahimahullah ta'ala, le dit ensuite. فَيُصَلِّ بِهِمْ رَكْعَتَيْنَ Il leur dirige deux unités de prière. يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَ Et il récite à voix haute dans cette prière. Donc les gens de science sont unanimes concernant le fait que la prière du vendredi est composée de deux unités. Et également ils sont unanimes concernant le fait que la récitation dans celle-ci se fait à voix haute, comme l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné. Ensuite il dit, nous précisons ce qui est légiféré de réciter durant cette prière. يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحْ وَفِي الثَّانِيَ بِالْغَاشِيَ Il récite dans la première unité Sabbih, c'est-à-dire Surat al-A'la, et dans la deuxième unité Surat al-Ghashiyah. Comme cela est prouvé par le hadith de Nu'man ibn Bashir, radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, qui nous rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récitait ces deux surat lors de la prière des deux fêtes et de la prière du vendredi. Et il dit Oh, bil jumu'a wal munafiqun. Ou il récite al-jumu'a, c'est-à-dire surat al-jumu'a dans la première unité, et surat al-munafiqun dans la deuxième unité. Comme cela est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, réciter ces deux surat le jour du vendredi. Ceci sont donc les sourates qu'il est recommandé de réciter pour l'imam lors de la prière du vendredi. Et s'il récite autre que cela, il n'y a pas de gêne, la prière est valide, mais le mieux est la sunna et de réciter ces sourates que l'on vient de mentionner. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous mentionne les choses qui sont recommandées pour ceux qui vont à la prière du vendredi. Il dit « وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَ أَنْ يَغْتَسِلْ » Et il est recommandé pour celui qui se rend au Jumu'a, de faire le rousl, de faire le grand lavage, les grandes ablutions. En effet, l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte de Salman al-Farisi, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Tout homme qui fait le rousl le jour du vendredi, puis se purifie autant qu'il peut. » Se purifie autant qu'il peut, c'est-à-dire qu'en plus de faire le rousl, il va se couper les ongles, tailler sa moustache, et ainsi de suite, parmi les choses qui sont légiférées. Et se parfumer du parfum de sa maison, puis sort et ne sépare pas entre deux personnes, c'est-à-dire qu'il ne s'assoit pas entre deux personnes qui étaient assises côte à côte. Puis qu'il prie ce qui lui est écrit, c'est-à-dire qu'une fois entré dans la mosquée, il est légiféré pour lui de prier ce qu'on appelle des nawafil al-mutlaqa, des prières surérogatoires, autant qu'il le souhaite, deux par deux. Puis qui se tait lorsque l'imam se met à parler, c'est-à-dire lorsqu'il fait le sermon. Donc tout homme qui fait cela, ce que l'on vient de mentionner, il se voit pardonner ce qu'il a fait entre ce Jumu'ah et le Jumu'ah précédent. Donc ce hadith, il nous prouve le mérite du ghusl le jour du vendredi. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous dit que cela est recommandé. On a déjà mentionné, lors de notre étude du chapitre sur les grandes ablutions, la divergence des gens de science à ce sujet. Et que l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, est que le ghusl du vendredi est une obligation, comme le démontre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: le ghusl du jour du vendredi est une obligation pour tout homme pubère. Et il dit dans un autre hadith: lorsque l'un d'entre vous se rend à la prière du vendredi, alors qu'il fasse le ghusl. Il a donc ordonné le ghusl sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci est une obligation pour celui qui se rend à la prière du vendredi. Quant à celui qui ne s'y rend pas, celui par exemple qui est en voyage, ou celui qui est malade, qui a une excuse, qui ne peut pas se rendre à la mosquée, ou alors la femme qui est chez elle. Le rousle du vendredi n'est pas recommandé pour eux, mais cela est seulement pour ceux qui se rendent à la prière. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa yatatayyab, et il se parfume, comme on l'a vu dans le hadith de Salman, radiyallahu ta'ala anhu. Il est recommandé pour l'homme, exclusivement, de se parfumer lorsqu'il se rend à la prière du vendredi. Wa yalbas ahsana thiyabihi, et qu'il porte ses plus beaux vêtements, comme cela est prouvé par le hadith rapporté par Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit que son père Omar a un jour vu une parure de soie devant la porte de la mosquée. Il a alors dit: ô messager d'Allah, si tu l'achetais pour la porter le jour du vendredi et lorsqu'une délégation vient à toi. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne portent ce genre de vêtements que ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Ce hadith, l'imam Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, l'a mentionné dans son recueil authentique dans le chapitre intitulé « Chapitre, le fait de porter les plus beaux vêtements qu'il trouve ». Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, a dit dans l'explication: la preuve dans ce hadith et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé Omar quant au fait de s'embellir pour le vendredi. Mais il n'a blâmé que le fait de porter une telle parure, et ce, car elle était en soie. Ceci est donc une preuve qu'il est recommandé de porter ses meilleurs vêtements le jour du vendredi, et également pour le Eid, ou lorsque la personne rencontre des gens qui sont venus à elle, et ainsi de suite. Ensuite, il dit, rahimahullah, wa yubakkiru ilayha, et il s'y rend tôt. Il se rend tôt à la prière du vendredi. Comme cela est prouvé par le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui fait le ghusl le jour du vendredi, le ghusl d'al-janabah, puis qui se rend à la première heure du vendredi, c'est comme s'il avait donné en offrande un chameau. Celui qui se rend à la deuxième heure, c'est comme s'il avait donné en offrande une vache. Celui qui se rend à la troisième heure, c'est comme s'il avait donné en offrande un bélier. Celui qui se rend à la quatrième heure, c'est comme s'il avait donné en offrande une poule. Et celui qui se rend à la cinquième heure, c'est comme s'il avait donné en offrande un œuf. Puis lorsque l'imam sort, les anges sont présents et écoutent le rappel. Donc ce hadith, il nous montre que plus la personne se rend tôt à la prière du vendredi, plus sa récompense est grande. Car on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en mentionnant les heures, plus l'heure de l'arrivée de l'imam s'approche, moins l'offrande est grande. Également, il y a un autre hadith immense nous montrant le mérite de se rendre tôt à la prière du vendredi, qui est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui doit faire le ghusl le jour du Jumu'ah, puis se lave, sort tôt et arrive tôt, alors pour chaque pas qu'il fait, c'est-à-dire en direction de la mosquée, il a la récompense d'une année de jeûne et de prière de nuit. Une année complète qu'il a passée à jeûner et à prier la nuit pour chaque pas qu'il fait en direction de la mosquée. On voit donc le mérite de se rendre tôt à la prière du vendredi et également le mérite de s'y rendre à pied. Ceci sont donc les choses qui sont recommandées pour celui qui se rend à la prière du vendredi. Et également, il est recommandé le jour du vendredi pour ceux qui se rendent à la prière et également pour ceux qui ne s'y rendent pas. De multiplier la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est venu dans le hadith authentique dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: multipliez la prière sur moi le jour du vendredi. Et tu peux prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la manière que tu souhaites, en disant tout simplement, par exemple, Allahumma salli ala Muhammad, ou Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Et le mieux est de prononcer As-salat al-Ibrahimiyya, la même que tu récites dans le tashahhud. Tu multiplies donc cela le jour du vendredi. Également, il est recommandé le jour du vendredi de réciter Sourate al-Kahf, Sourate la caverne. Et ce car il est venu dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit Sourate al-Kahf le jour du vendredi est éclairé par une lumière jusqu'au vendredi suivant. Ceci est donc recommandé pour celui qui se rend à la prière, tout comme pour celui qui ne s'y rend pas. Et également, il est recommandé le jour du vendredi de multiplier les invocations. Et ce, à toute heure de la journée, particulièrement durant la dernière heure. Car il y a le jour du vendredi une heure durant laquelle l'invocation est exaucée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala: le jour du vendredi, il y a une heure durant laquelle il n'y a pas un serviteur musulman debout en train de prier qui demande quelque chose à Allah sans qu'Allah ne lui accorde. Certains parmi les gens de science ont dit que l'heure la plus probable pour être cette heure est la dernière heure du vendredi. D'autres ont mentionné des avis différents. Et d'autres ont dit qu'on ne sait pas le moment où se trouve cette heure. Et ce, afin de nous inciter à multiplier les invocations tout au long de cette journée, afin de pouvoir atteindre le moment de cette heure. De la même manière que la nuit du destin est cachée, que l'on ne sait pas quelle nuit elle se trouve parmi les 10 dernières nuits du Ramadan, afin de nous pousser à multiplier les efforts durant toutes ces 10 nuits. Et bien pour cette heure, c'est la même chose, c'est pour te pousser et t'encourager à multiplier les invocations durant toute la journée, afin d'être sûr d'atteindre cette heure, bi'inillahi ta'ala. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit: wa fi sahihain, idha qulta لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوته. Dans les deux recueils authentiques, c'est-à-dire de Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si tu dis à ton ami le jour du vendredi, tais-toi, alors que l'imam est en train de prononcer le sermon, tu as alors certes fait une futilité. Ce hadith, il nous montre l'obligation de garder le silence durant le sermon du vendredi, l'interdiction de parler durant celui-ci. Même si quelqu'un parle et que tu souhaites lui interdire, tu ne lui dis pas tais-toi, tu ne lui parles pas. Tu peux lui faire un signe discret de la main pour lui indiquer de se taire, mais tu ne prononces aucun mot. Non pas comme le font certaines personnes qui discutent ou qui parlent durant la prière du vendredi, ou alors lorsqu'ils sont avec des enfants et que l'enfant se met à parler, qu'ils leur disent de se taire ou qu'ils leur répondent, et ainsi de suite. Ce qui est légiféré, c'est de nous taire durant le sermon, afin de pouvoir profiter de ce serment, en tirer des bénéfices. Et si tout le monde se mettait à parler, alors personne ne pourrait l'écouter, personne ne pourrait en profiter. Il est donc légiféré de garder le silence et de s'écarter de toute futilité, comme le fait, par exemple, de toucher le sol, de toucher ses vêtements, craquer ses doigts, toucher sa montre, toucher son téléphone et autre chose semblable. Mais ce qui est légiféré, c'est d'écouter attentivement le serment, tout en gardant le silence jusqu'à la fin de celui-ci. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit: وَدَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَخْطُبْ فَقَالَ صَلَّيْتَ قَالَ لَهُ قَالَ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Un homme est entré le jour du vendredi alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait le sermon. Il lui alors dit: as-tu prié? L'homme répondit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: lève-toi et prie 2 unités. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Ce hadith est donc une preuve que lorsque tu entres à la mosquée le jour du vendredi et que le sermon a commencé, il est tout de même légiféré de prier deux unités de salutation de la mosquée. En effet, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a même ordonné à cet homme dans ce hadith. Et certains savants ont pris ce hadith pour preuve démontrant l'obligation de la prière de salutation de la mosquée. Donc si tu arrives à la mosquée et que le sermon a commencé, tu ne t'assois pas sans prier deux unités. Et ce hadith, il nous prouve également qu'il est légiféré pour l'imam d'ordonner le bien et d'interdire le mal, même lorsqu'il prononce le sermon, même s'il doit pour cela interrompre le sermon, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voit cet homme entrer et s'asseoir, il interrompt son sermon, lui demande s'il a prié, puis lui ordonne de prier deux unités. Et on voit également que l'homme, il lui a répondu. Ceci nous indique que s'il y a un besoin, et que celui qui fait le sermon s'adresse à un fidèle, lui pose une question pour un besoin, alors il n'y a pas de gêne dans cette situation à ce que le fidèle lui réponde. Ceci concerne donc celui qui arrive alors que le sermon a commencé. Et si tu arrives alors que la prière a commencé? Si tu arrives à la première unité, alors il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala, ta prière du vendredi est valide, bi'inillah. Bien que l'obligation soit pour la personne d'être présente pour le sermon. Mais selon les cas et les situations, il se peut que la personne soit excusée. Si tu arrives à la deuxième unité, avant l'inclination de l'imam, alors tu auras eu une unité de la prière du vendredi. Dans ce cas-là, tu as atteint la prière du vendredi. Après les salutations, tu te lèveras et rattraperas une unité. Mais si tu arrives après qu'il se soit levé de l'inclination, il est en prosternation de la deuxième unité, ou alors il est au tashahhud, alors dans ce cas-là, tu as manqué la prière du vendredi. Donc, une fois qu'il aura salué, ce qui t'incombe, c'est de prier 4 unités pour la prière du dhuhr. Et ça, c'est très important. Il y a des personnes parfois qui arrivent, ils arrivent au tashahhud de la prière du vendredi, ils se lèvent, ils prient seulement 2 unités. Et ceci est une erreur. Si tu arrives au tashahhud, si tu arrives après que l'imam se soit relevé de la deuxième inclination, alors tu as manqué la prière du vendredi. Et ce qui t'incombe, c'est de prier le dhuhr, car c'est la prière légiférée en ce temps pour celui qui ne prie pas la prière du vendredi. Enfin, pour terminer, il y a un autre point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, qui est ignoré par beaucoup de personnes et qui est d'une haute importance. Et cela concerne le cas de celui pour qui il est obligatoire de se rendre à la prière du vendredi. On a vu la gravité du délaissement de la prière du vendredi sans excuse et les menaces mentionnées dans les hadiths qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut sceller ton cœur. Mais il faut savoir que celui qui est dans cette situation, qui délaisse la prière du vendredi sans excuse, alors s'il prie le dhuhr avant que la prière du vendredi ait lieu, sa prière du dhuhr n'est pas valide. Pourquoi? Car l'obligation pour lui, c'est de se rendre à la prière du vendredi. Le dhuhr n'est pas légiféré pour lui, mais il est obligatoire pour lui de faire la prière du vendredi. Donc tant que la prière du vendredi n'a pas eu lieu, le dhuhr n'est pas légiféré pour lui. Mais il lui incombe de se rendre à la prière. Une fois que la prière du vendredi a eu lieu, s'il prie le dhuhr, sa prière est valide, mais comme on l'a mentionné, il sera dans le péché pour avoir délaissé volontairement et sans excuse la prière du vendredi. On a donc terminé concernant ce chapitre et on verra dans le cours de demain les règles de la prière des deux fêtes. Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. وبارك الله فيكم.